Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Allez, Europe Soir Weekend, on est ensemble jusqu'à 20h. Surtout, ne bougez pas, on s'occupe de vous, on débat sur les sujets qui font l'actualité ce soir. Et pour m'accompagner jusqu'à 20h, je salue Marie-Virginie Klein, conseillère en stratégie Bonsoir. De communication. Merci d'être là. Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste.
Bonsoir.
Édouard Orian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès, majorité présidentielle. Bonsoir. Et puis Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France LR.
Bonsoir.
Alors, le programme, évidemment, Macron saison 2, le casting continue. Qui, pour succéder à Jean Castex au poste de Premier ministre, les spéculations continuent. Pourquoi Emmanuel Macron fait-il durer le suspense? Demain, c'est aussi le 1er mai, la fête internationale des travailleurs. On attend beaucoup de mobilisation. Mais est-ce que le troisième tour va se jouer véritablement dans la rue? Mais pour commencer, tiens, on va parler de cette séquence glaçante diffusée hier soir sur la télévision russe, Russia Today, des chroniqueurs qui s'amusent à démontrer que leur missile nucléaire Sarmat pourrait atteindre des capitales européennes depuis Kaliningrad en moins de 2 minutes. Écoutez bien cet extrait hallucinant.
Nous parlions des missiles Sarmat. La question c'est, peuvent-ils les arrêter? Ce missile ne peut pas être intercepté. Leurs moyens sont limités. Ils disent qu'ils peuvent les descendre, on verra bien.
Depuis Kaliningrad, un Sarmat mettrait 106 secondes pour atteindre Berlin. Pour frapper Paris, 200 secondes. Vous parliez de Londres, 202 secondes.
Mais il faut leur montrer cette infographie. Hey, les gars, regardez cette image. Comptez les secondes. Vous pouvez y arriver? Eh non, le missile est déjà là. Laissez-les réfléchir un peu. Qu'ils prennent un chronomètre, qu'ils comptent 200 secondes. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Il n'y a que ça qu'ils comprennent.
200 secondes pour atteindre Paris, 106 pour Berlin. Depuis plusieurs jours, des analystes de la télévision d'État russe n'hésitent pas à évoquer un risque de troisième guerre mondiale. Alors oui, ça ressemble à de la propagande destinée à faire peur aux Occidentaux. En attendant, cette dépêche qui vient de nous parvenir, cette information, l'aéroport d'Odessa, ville portuaire dans le sud de l'Ukraine, a été touché samedi par une frappe russe qui a détruit la piste sans faire de victimes. C'est le gouverneur de la région, Maxim Marchenko, qui l'annonce. Une réaction, Jean-Yves Le Borgne, voilà, on les connaît évidemment, ces tentatives d'intimidation, mais là il frappe fort quand même avec ses déclarations. On envoie un missile comme ça, ils en rient.
Il s'agit de la télévision russe.
Absolument.
Il ne faut pas la confondre avec les médias d'Europe occidentale.
Une télévision du gouvernement bannie par l'Union européenne.
Nous avons ici la liberté de dire ce que nous pensons, y compris si nous ne pensons pas la même chose les uns et les autres. Il ne faut pas exclure, alors c'est peut-être une interprétation trop optimiste, mais il ne faut pas exclure que ce propos de menace d'une attaque nucléaire soit finalement le relais de la rodomontade de Poutine.
Absolument.
Et qu'en réalité tout cela ne soit jamais suivi d'effet. Étant entendu qu'il y a une menace qui existe, c'est celle de la frappe nucléaire limité, car on pense toujours aux bombes extraordinaires, même ce qui aujourd'hui était là, une faible bombe, celle d'Hiroshima par exemple, mais il y a des armes beaucoup plus faibles dans le dégât, un dégât évidemment radical, mais dans un rayon assez limité. Donc, il ne faut pas l'exclure, il ne faut pas, se placer dans un optimisme béat en disant tout ça, ce sont des mots. Mais je pense aussi que c'est une manière de rappeler aux Occidentaux qu'il ne faut peut-être pas qu'ils soutiennent trop concrètement, trop militairement.
Oui, c'est pour museler, pour un peu assommer les contradictions. Édouard Orian-Sipel.
Je crois qu'il faut toujours garder son sang-froid sur ces questions sérieuses et ne pas céder aux provocations ni même aux intimidations.
Là, on a franchi un cap quand même,
oui,
parce qu'on est dans des simulations de guerre nucléaire très
précises. C'est la
précise.
Télévision russe, ce ne sont pas des paroles d'État, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, le chef de la diplomatie russe, vous le dites, Sergueï Lavrov, a toutefois il a assuré dans la semaine que son pays faisait tout pour préserver le principe de ne pas recourir à l'arme nucléaire.
C'est une façon de dire que ça pourrait néanmoins arriver.
Une façon de baisser la tension et d'avoir des paroles un peu plus équilibrées. Rassurez-vous aussi, parce que nos stratèges et nos chefs militaires, aussi bien français que dans l'OTAN, et on voit là l'importance de la protection de l'OTAN pour nos pays européens et pour l'ensemble des membres de cette alliance, je le rappelle parce que il y a certains candidats aux élections législatives qui souhaitent rompre ou affaiblir ce lien avec l'OTAN. Et je pense que là, on voit ce que représente objectivement comme protection sérieuse pour nous tous le fait d'être sous l'Alliance Atlantique dans une situation comme celle-là. Mais il faut garder son sang-froid, son sang-calme, être en même temps vigilant et prendre au sérieux ce qui se passe en Russie, mais certainement pas céder aux provocations et toujours garder son sang-froid et pas de parole au-delà de celles qui sont nécessaires dans ces affaires-là.
Je vous passe la parole, hein, Patrick Karam, dans quelques instants, mais on va réécouter un autre extrait de cette émission télévisée. On va écouter Margarita Simonian, c'est celle qui dirige cette chaîne de télévision russe. C'est un média banni, je le rappelle, par l'Union européenne depuis le début du conflit qui s'exprime. On l'écoute.
Nous devrons mener une opération spéciale pour démilitariser l'OTAN. Ça ne devrait pas être facile.
Ces représentants de 40 pays sont aujourd'hui le collectif Hitler. Tu as tout à fait raison de dire nous sommes dans un état de troisième guerre mondiale.
C'est soit on perd en Ukraine, soit la troisième guerre mondiale commence. Moi, je pense que la troisième guerre mondiale est plus réaliste. Connaissant notre peuple, connaissant notre dirigeant Vladimir Poutine, le résultat le plus incroyable, que tout cela se terminera par une frappe nucléaire, pour moi, c'est le plus probable, beaucoup plus que le scénario d'une défaite.
Soit nous perdons en Ukraine, soit la troisième guerre mondiale commence. Je pense que la possibilité d'une troisième guerre mondiale est plus réaliste. Elle te dit ça avec le sourire. Patrick Karam, vice-président du Conseil régional Île-de-France.
Poutine a mis au pas les médias. Poutine a mis au pas son opposition. Aujourd'hui, c'est un homme seul qui gouverne le pays. C'est un homme seul avec quelques personnes.
Dont on se pose des questions d'ailleurs sur sa santé physique, voire mentale. On entend aussi beaucoup de choses, mais on a vu quelques images qui peuvent laisser penser qu'il est peut-être légèrement souffrant.
Alzheimer, j'entends la presse qui en parle. En tout cas, il ne faut surtout pas supputer sur ça. Il faut le considérer aussi comme quelqu'un de rationnel, déréglé mental, parce qu'il a une autre façon de voir les choses.
Ce qui se passe là est totalement irrationnel.
Mais là, on parle de tout un peuple. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que ça témoigne simplement d'une chose, c'est que le peuple russe est chauffé à blanc. Le nationalisme aujourd'hui est utilisé à fond. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui va devoir se serrer la ceinture. C'est un pays qui va devoir connaître des privations qu'ils n'ont pas connues depuis longtemps. Parce que Poutine, pourquoi il est populaire ? Parce que pendant longtemps, Poutine leur a dit « Ok, moins de liberté, mais on va faire monter votre niveau de vie. » Et il a tenu parole. Et là, on va assister, pour la première fois depuis qu'il est en situation, à un décrochage. Ça veut dire que les gens vont connaître les privations, vont connaître les pénuries, vont faire la queue devant les magasins, etc., etc. Et là, pour le faire avaler, mais il y a une seule carte, une seule, le nationalisme brutal. Et il a réussi à convaincre, Poutine a réussi à convaincre les Russes que cette guerre était une guerre juste, que cette guerre était provoquée par l'OTAN, était provoquée par l'Occident, et que la Russie ne faisait que défendre ses intérêts vitaux. C'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de confrontation entre le camp du bien et du mal. Pour nous, en Occident, le camp du mal, c'est Poutine. On le traite de fou, de déréglé mental. Et bien, pour Poutine et pour les Russes, le camp du mal, c'est l'Occident. Il faut l'avoir en tête. Et quand on doit se dire, nous, Européens, on doit reconstruire l'Europe, il faut se redire une chose, c'est que Poutine n'est pas éternel. Et donc il faut faire très attention à tout ce qu'on va mettre en place parce que Poutine n'est pas éternel et qu'on ne peut pas se payer le luxe d'avoir la Russie comme ennemi éternel à nos frontières.
Édouard Dorian-Sipel ?
Non, je crois qu'il faut faire attention aux mots et je ne crois pas qu'il s'agisse de folie. En revanche, il peut s'agir de la stratégie du fou.
Oui, c'est choqué par des menaces, par de l'indécence, par de la folie.
Voilà,
il veut faire réagir l'Occident, définitivement.
Comme si on était un fou imprévisible. C'est Nixon qui théorise là dans les années 70, dans la guerre au Vietnam. Et je crois que c'est le jeu que joue Poutine. Et en même temps, il s'est calculé. Des deux côtés, nous savons calculer le rapport de force stratégique, c'est-à-dire des forces. Mais c'est encore une fois, il ne faut pas céder à la stratégie du fou. Il faut maintenir le rapport de force. Il faut continuer d'aider l'Ukraine, la soutenir et continuer de l'aider en armement. La France monte en degré et en gamme sur le sujet avec l'ensemble des alliés, les États-Unis en tête. C'est la meilleure façon, je crois, de retrouver la paix par un rapport de force où on soutient l'Ukraine pour dire non à la guerre et obliger Vladimir Poutine à arrêter les armes et de venir à la table des négociations. C'est difficile, on en est loin. Et je pense qu'il ne faut pas céder encore une fois aux provocations. et être toujours prêt à calculer correctement le rapport de force entre les uns et les autres.
Marie-Virginie Klein, cette escalade militaire, cette intimidation,
Depuis le début, on est dans une guerre de communication et d'intimidation. Et même avant que ça commence, puisque souvenez-vous encore de cette table de 4 mètres, qui était déjà une façon de montrer qu'il dominait, que Vladimir Poutine était en domination de son adversaire, quel qu'il soit, ou de n'importe qui en face de lui. Sur l'émission qu'on a écoutée, il faut quand même juste se rappeler que Russia Today, c'est une chaîne qui est pro-Kremlin, pardon. Et donc, quand on les entend, c'est assez fort de constater que leur parole est téléguidée par le gouvernement et que de s'amuser de la rapidité avec laquelle un missile peut atteindre telle ou telle ville européenne, c'est des propos qui ne sont pas entendables sur une autre chaîne qu'une chaîne comme ça qui n'est pas une chaîne avec une parole libre.
Non, mais ça, c'est un avertissement à l'Occident.
Jean-Yves Le Borne,
je pense qu'il faut aussi, dans l'effort de soutien de l'Ukraine, que nous pensions à ne pas humilier la Russie. Car en réalité, cette humiliation, je ne dis pas ça par gentillesse ou par faiblesse d'âme, mais parce que l'humiliation, ça pousse au pire. Et que finalement, ce pire qui est décrit par cette scène ahurissante de cette chaîne de télévision russe, le pire pourrait advenir si les Russes étaient acculés. Non seulement les Russes, mais le régime de Poutine.
Mais parce qu'ils reculent sur le terrain, finalement.
Qu'ils mettent un coup de pression. Moi voyez-vous, au risque de déplaire, je dirais que je ne souhaite pas une défaite cinglante des Russes. Je souhaiterais que les choses s'apaisent de façon à ce qu'ils puissent se retirer du circuit militaire sans être considérés comme vaincus. Et puis, il y a l'avenir. La Russie, qu'on le veuille ou non, appartient à l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle.
À terme, je suis d'accord avec vous, à terme, je ne sais pas si c'est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, un accord de sécurité collective entre l'Europe et la Russie, bien entendu.
On en reparlera évidemment de ce conflit avec l'Ukraine et de cette escalade, de cette intimidation qui continue du côté de la Russie. Mais tout de suite, allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des débats, une page de pub.